tout premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, à l'origine, il y a Dieu. Dieu Père. Mais nous venons de l'entendre avec le prologue de Saint Jean. Au commencement, il y a aussi un reflet de la gloire du Père. Quelqu'un qui est l'expression parfaite de son être. Celui qui est parole de Dieu. De la création, celui-ci est le maître d'œuvre. Tout fut par lui. Sans lui, rien ne fut. Et quand tout vient à l'être par lui, celui qui est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, n'abandonne pas cet univers qui jaillit. Il ne cesse pas d'y venir. Le Verbe vient. Ce Dieu, reflet, resplendissement de Dieu, est présent dans le monde, dans tout ce que nous voyons, dans l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il est comme l'enchantement caché de l'univers, une présence d'amour qui est là et qui s'offre pour éclairer nos obscurités, qui s'offre pour que nous le reconnaissions, que nous reconnaissions son mystère, qui s'offre pour que nous l'accueillions et le gardions près de nous. Le monde n'est pas un chaos, fruit du hasard et de la nécessité. Le monde porte une raison d'être, un logos en grec. Il est habité par une logique d'amour. Il est continuellement visité par celui que l'on appelle le Verbe de Dieu, et dont Saint Jean nous dit qu'il est lumière et vérité. Il est auprès de tout humain, lumière et vie qui s'offre comme une mystérieuse source cachée dans un silence d'amour. Il est là pour être lumière, pour être vie, au creux de tout être. Et parfois, par amour, il scintille, nous offrant des étincelles de lui-même, des étincelles du Verbe, des étincelles de lumière et de vie. Prenons un exemple, même trois exemples. Je pense d'abord à Edith Stein, cette jeune intellectuelle allemande travaillée par une longue quête de sens. Et dans une nuit de juin 1921 à Bertzaben, en lisant l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila, cette jeune intellectuelle, Edith, découvre que Dieu est la vérité. Voilà ce qu'elle écrit. La vérité qui a daigné se révéler à mon âme est l'essence même de la vérité, qui n'a ni commencement ni fin, et de cette vérité en singulier dépendent toutes les vérités. Étincelle de lumière, étincelle du Verbe dans le cœur d'une jeune femme. Je pense aussi à un grand scientifique russe, Paul Florensky, qui avait reçu une éducation complètement agnostique, au point d'éprouver une véritable hostilité envers tout enseignement religieux. Or, une nuit de l'été 1899, Paul se sentit plongé dans les ténèbres. Il se sentait comme enfermé dans un puits de mine. Voilà son témoignage, je vous le livre. C'était comme la sensation d'être enterré vif, en ayant au-dessus de sa tête des kilomètres de terre noire impénétrable. J'avais la sensation que désormais personne ne pourrait m'aider. Dans cet instant-là, un rayon ténu, qui était peut-être une lumière invisible ou un son inaudible, apporta un nom, N-O-M, celui de Dieu. Ce n'était encore ni une illumination, ni une renaissance, mais seulement la nouvelle, la nouveauté d'une lumière possible. Une nouveauté porteuse d'espoir. Et avec elle, la conscience tumultueuse et soudaine que c'était ou la mort ou le salut. Et par ce nom-là, Dieu, et par aucun autre. Je ne savais ni comment le salut pouvait être donné, ni pourquoi. Je ne comprenais pas où j'étais tombé. Mais je me trouvais confronté à un fait nouveau, aussi incompréhensible qu'indiscutable, l'existence d'une région des ténèbres et de la mort, et le salut en elle, dans cette région. Ce fut pour moi une révélation, une découverte, un choc. Comme réveillé par une force extérieure et sans savoir moi-même pourquoi, mais faisant le bilan de tout ce que je venais de vivre, je m'écriais très fort dans ma chambre, « Non, on ne peut pas vivre sans Dieu. » Étincelle de vie, étincelle du Verbe au cœur d'un agnostique. Je pense enfin à une jeune Hollandaise d'origine juive, Etty Hillesum, que beaucoup parmi vous connaissent, est morte en camp de concentration à Auschwitz. Initialement éloignée de Dieu et n'ayant aucune pratique religieuse, elle a été visitée par une insaisissable lumière intérieure. Elle découvre une présence aimante. Un puits très profond est en moi, dit-elle, et Dieu est dans ce puits. Parfois, j'arrive à le rejoindre. Le plus souvent, la pierre et le sable le recouvrent. Alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer. Elle, qui jadis ne savait pas prononcer le nom de Dieu, fit le 12 juillet 1942, peu avant de mourir en camp de concentration, cette prière « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. » Étincelle de lumière, étincelle du Verbe. Et combien de témoignages, combien d'histoires on pourrait raconter. On pourrait vous raconter volontiers l'histoire de cette femme thaïlandaise bouddhiste que Pierre Benoît et moi nous avons rencontrée dans l'avion au mois de septembre, Suyemun, visitée par le Verbe de Dieu il y a 17 ans, alors qu'elle était gravement malade et qui aujourd'hui connaît le Verbe de Dieu. Ou encore une résidente du plateau, rencontrée dimanche après-midi sur la place du métro, née dans une famille qui avait tassé toute pratique religieuse et qui, dans une maladie terrible, a été consolée par le Verbe de Dieu. Étincelle du Verbe, étincelle de lumière et de vie dans le cœur d'hommes et de femmes dans la nuit. Présence mystérieuse du Verbe, qui étincelle de lumière et de vie dans l'histoire d'Israël d'abord, mais aussi dans l'histoire de tous les peuples. Du Verbe dont le désir est d'éclairer nos obscurités, d'être reconnu dans son mystère éternellement pascal et de demeurer, je le répète, au plus intime de notre oui, de notre foi. Dans quel but ? Pour nous faire devenir en lui enfants de Dieu. Et quand nos ténèbres ne veulent pas de sa lumière, quand nous ne le reconnaissons pas, quand nous sommes incapables de l'accueillir dans l'intime de notre foi, que fait-il ? Est-ce qu'il abandonne son projet de nous faire devenir enfants de Dieu ? Est-ce qu'il nous abandonne comme un rebut, même pas digne du recyclage ? Non, non. Il continue, il va jusqu'au bout de l'amour. Il va jusqu'au bout du projet d'amour du Père. lui qui est Dieu, lui qui est de condition divine. Il ne retient pas comme un trésor jaloux son égalité avec Dieu, mais il se vide, il s'anéantit lui-même, il se fait chair. Et tout à l'heure, nous nous agenouillerons quand ensemble nous chanterons cela. Chair, c'est-à-dire humain dans la fragilité humaine, pas surhomme, pas géant, pas héros, pas génie, en tout semblable à nous. Il a été porté comme toi dans le sein d'une mère. Il est né dans la plus grande simplicité, et plus que la simplicité, il a été déposé dans une mangeoire pour être consommé, pour que tu le consommes. Ce qu'il est dans le monde, présence mystérieuse, ce qu'il est dans ses étincelles de lumière et de vie, il l'est aussi dans son humanité, lumière et vie. Il connaît les ténèbres de mon âme et de ton âme, et il vient à nous, petit enfant, comme un rayon de lumière. Il sait ce qui en nous ne vit plus ou n'a jamais pu vivre. Et il vient à nous dans l'innocence d'un enfant pour nous faire vivre de l'intérieur. Il vient en toi. Il voudrait grandir en toi. Est-ce que tu le lui permets aujourd'hui, en ce Noël? Est-ce que tu permets au Verbe de Dieu fait chair de grandir en toi? À mesure que nous le laisserons grandir en nous, nous verrons sa gloire, la gloire qu'il ne tient pas de lui seul, la gloire qu'il tient de son Père, la gloire de sa continuelle offrande où il s'appauvrit vers le Père et de sa continuelle restauration où il se reçoit du Père. Qu'il sera beau en toi et que tu seras beau, belle en lui. Si tu te laisses investir et même envahir toutes les si tu le laisses envahir toutes les fibres de ton être, à commencer par tes fragilités les plus cachées, il répandra en toi, en moi, en nous ce qu'il a et même ce qu'il est, la grâce et la vérité. Par lui nous est donnée la grâce, c'est-à-dire la beauté, le charme de tout don gratuit de Dieu qu'on ne peut mériter et dont on ne peut pas s'approprier. Tu deviens beau dans la mesure où tu ne t'appropries en rien de ce que Dieu te donne. Et la vérité, c'est-à-dire la fidélité de Dieu qui demeure ferme, roc, solide, quand tout semble perdu et quand il te semble que tu sombres dans le non-être. Voilà ce que nous donne le Verbe qui vient en nous se faire chair. Alors, nos yeux s'ouvrent sur le visage du Père. Car si personne n'a jamais vu le Père, lui, le Verbe, et lumière et vie nous le révèle. Littéralement, il conduit le Père hors du mystère, et nos yeux s'ouvrent, émus, émerveillés devant la tendresse de Dieu. Le Verbe qui habite la création, c'est le Père qui parle, qui appelle ses enfants. Le Verbe qui étincelle de lumière et de vie en Israël et dans le monde entier, c'est le Père qui appelle plus fort ses enfants perdus dans la nuit. Le Verbe qui se fait chair et de la crèche à la croix manifeste sa gloire, c'est le Père qui lance un grand cri d'amour pour ne perdre aucun de ses enfants. Noël, c'est le cœur du Père mis à nu. Son jeu est dévoilé. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Dieu est amour. Alors, et je termine par là, les guetteurs dont parle Isaïe, les guetteurs de sens, insatisfaits des seules guirlandes de Noël, poussent des cris de joie, car les yeux dans les yeux, ils voient le Seigneur en train de regagner Sion, en train de tendresser la ville. Quelle merveille! Frères et sœurs, ces guetteurs qui ont aperçu l'amour de Dieu et qui l'annoncent, cette nuit, c'était les bergers. Ce matin, c'est nous, nous tous. C'est nous qui avons à ensemencer la ville des semences de l'Évangile. C'est nous qui portons pour la ville les semences de la grâce et de la vérité. C'est nous que le pape appelle à sortir pour semer dans le cœur des citoyens et d'abord des pauvres la joie de l'Évangile. Chers frères et sœurs, ne laissez pas tomber cet appel comme une belle idée à laquelle on pensera un autre jour. Je vous invite aujourd'hui de tout cœur. Je vous invite à prendre soin aujourd'hui ou dans les tout prochains jours, d'une manière ou d'une autre, à prendre soin d'un pauvre, d'une personne fragile. Faites la fête à un pauvre et vous aurez le cœur en joie. Je vous le promets, au nom du Seigneur. Et puis, ça c'est à plus long terme. Je vous propose, nous vous proposons, d'adopter secrètement dans la prière une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur et qui habite près de chez vous ou près d'ici. C'est un commerçant, un voisin, un ami, un parent, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et je vous invite, je vous propose de prier pour cette personne à partir d'aujourd'hui et pendant 9 mois. Et dans 9 mois, autour du 25 septembre, nous ferons une fête ici pour les citoyens auxquels vous aurez fait une invitation quelques jours avant, sans doute, en disant, je ne lui dirai pas « j'ai prié pour toi pendant 9 mois ». Je lui dirai « je t'invite à une fête le 27 septembre, après-midi, au sanctuaire du Saint-Sacrement ». Et vous serez surpris. Et vous serez émerveillés, et moi avec vous. Il faut que nous découvrions notre maternité. Nous sommes une mère, parce que nous sommes l'Église. Et pour cela, je confie à Marie notre grossesse ecclésiale. Une communauté qui n'enfante pas et ne prend pas soin des pauvres est une communauté malade. Il faut l'envoyer aux soins intensifs. Mais avec Marie, par pure grâce, et aussi avec l'audace de sortir de nos zones de confort, nous serons en santé en 2014 pour la joie du Père qui nous aime et qui nous bénit aujourd'hui en débordant de sa joie paternelle. Amen. Amen.